rentrer dans les caisses de l'État ces derniers temps que les années précédentes. Est-ce que son principal problème, ça ne va pas être quand même d'encourager cette relance et de la conforter?
Tout à fait. Je dirais que ce qui est très intéressant dans la situation dans laquelle est Vladimir Poutine, c'est qu'il y a effectivement macroéconomiquement une situation beaucoup plus favorable qu'avant. Il y a de la croissance, les impôts rentrent mieux, l'économie est plus monétaire, l'inflation est maîtrisée. Donc après la crise, on a une situation effectivement qui permettrait à Vladimir Poutine de commencer le véritable chantier des réformes. Parce que si sur le plan macroéconomique ça va, sur le plan des réformes structurelles, c'est-à-dire sur le plan des réformes bancaires, sur le plan de la fiscalité, sur le plan des droits de propriété, tout cela reste à faire. Donc le contexte macroéconomique est plus favorable. Deuxième chose plus favorable, c'est le contexte politique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une légitimité politique de Vladimir Poutine qui pourrait lui permettre. Alors ça, ce sont les caractéristiques favorables. Ce qui est défavorable, par contre, c'est le fait que Vladimir Poutine vient d'un sérail, c'est-à-dire du sérail de Yeltsin. Il est très proche de certains oligarques. Et je dirais, est-ce qu'il va rompre avec cette proximité-là? C'est toute la question.
Est-ce qu'il aura la marge de manœuvre nécessaire et suffisante pour pouvoir le faire? On dit que les investisseurs étrangers sont prêts à revenir en Russie massivement, en Russie. Évidemment, c'est si on leur donne des garanties.
Oui, c'est-à-dire que ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a eu des grandes affaires d'expropriation d'investisseurs étrangers. C'est-à-dire que du jour au lendemain, des tribunaux russes ont décidé d'exproprier des investisseurs étrangers. Et donc, ces investisseurs sont en attente d'une ligne claire de la part de l'État fédéral. C'est-à-dire qu'il faut que l'État fédéral dise voilà quelles sont les règles, et surtout que ces règles sont stables, elles sont intangibles. Et c'est ça qu'attendent les investisseurs étrangers. Alors, c'est vrai que, bon, Vladimir Poutine pourrait le faire, mais encore une fois, il y a des intérêts en jeu. Il y a l'intérêt, notamment, tous ces groupes industriels qui voudraient mettre la main sur un certain nombre d'actifs juteux en Russie. Il y a un secteur énergétique qui est encore très protégé et dans lequel les investisseurs étrangers voudraient rentrer. Donc là, ce sont les enjeux. Et là, Vladimir Poutine va devoir arbitrer entre effectivement cette pression internationale et cette nécessité que la Russie revienne dans la communauté financière internationale, et puis les intérêts massifs des industriels locaux, les intérêts des industriels, mais aussi les peurs des salariés russes, des peurs devant des restructurations massives. Parce que qui dit investisseur étranger dit possibilité de restructuration, dit possibilité de chômage, et ça, c'est quelque chose que les gens dans les régions rejettent massivement.
Yves Zlotowski, je vous remercie. Antoine Mercier, merci d'être revenu à la fin de ce journal. Donc pour nous donner peut-être la liste, peut-être pas complète, mais en tous les cas
Les principaux changements, oui, tout à fait. Donc confirmation à l'économie, aux finances et à l'industrie, Laurent Fabius qui remplace donc Christian Sauter. À l'éducation, c'est la grosse surprise de ces nominations. Eh bien, c'est Jack Lang qui remplacera Claude Allègre. Jack Lang qui renonce par là même à sa candidature, à la candidature PS pour la mairie de Paris. Catherine Tasca remplace Catherine Trottmann à la culture, à la communication. Encore une fois, là, ce sont des nominations officielles, les noms que je vous donne. Michel Sapin devient ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, en remplacement d'Émile Zuccarelli, qui quitte donc le gouvernement. Roger Gérard Schwarzenberg, radical de gauche, ministre de la Recherche. Jean-Luc Mélenchon, de la gauche socialiste, ministre délégué à l'enseignement professionnel. A noter encore un changement d'attribution pour Ségolène Royal, qui était ministre délégué à l'enseignement scolaire et qui devient ministre délégué à la famille et à l'enfance. Pour le reste, il ne devrait pas y avoir de gros changements. Donc je vous rappelle ceux qui devraient rester, bien qu'on n'ait pas encore confirmation. Hubert Védrine aux Affaires étrangères, Martine Aubry à l'emploi, Jean-Pierre Chevènement à l'intérieur, Alain Richard à la défense, Elisabeth Guigou à la justice, les trois communistes Jean-Claude Guessot au transport, Marie-Georges Buffet au sport et Michel de Messine au tourisme, ainsi que Dominique Voynet chez les Verts. Mais pour ajouter au changement, on peut noter encore qu'un quatrième ministre communiste va faire son entrée au gouvernement. Il s'agit de Michel Dufour, secrétaire d'État au patrimoine et à la décentralisation culturelle, et les Verts qui comptent donc un second ministre en plus de Madame Voynet. C'est l'entrée de Guy Ascouette, secrétaire d'État à l'économie solidaire. Voilà pour l'essentiel.
Météo
Monsieur Jospin va
France.
parler dans maintenant quelques minutes, avant 13h en tout cas.
Météo France annonce un temps agité et frais sur l'ensemble des régions. Le prochain journal vous sera présenté en direct de Moscou par Frédéric Carbone à 18h. On retrouve tout de suite Julie Clarini et Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées.
Tranquility to Earth. la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau de retour.
Julie Clarini.
Avec la collaboration de Caroline Brouet, Ariane Poulanzas et Nicolas Demorand.
La peinture est-elle sèche? C'est déjà une bien vieille rengaine qui date au moins de l'apparition de la photographie. La peinture n'aurait plus de sens, elle serait dépassée par des nouveaux médias de plus en plus nombreux. Bon, ce discours qui vraiment date a suscité en réaction un discours peut-être un petit peu plus récent, même si lui aussi date de quelques temps, qui est un discours très réactif un discours qui n'est pas vraiment un discours de défense de la peinture dans ses formes les plus fréquentes, mais plutôt un discours contre l'art contemporain qui serait un art oublieux de ce média qui est la peinture. Donc l'art contemporain formerait un monde de l'art à part qui ne comprendrait pas la peinture selon ces défenseurs de la peinture dont on a peine à lire quelquefois de véritables défenses du média. Il semblerait qu'aujourd'hui peut-être on entre dans un troisième temps de ce débat puisqu'on voit certaines personnes qui sont des acteurs de ce monde de l'art contemporain laisser une place peut-être un peu plus grande à la peinture comme pour mieux montrer qu'il n'y a qu'un seul monde de l'art et que la peinture y trouve encore sa place.
Autour de nous, donc, des acteurs, comme vous dites, Sylvain, du monde contemporain. Dans l'ordre des aiguilles d'une montre, à mes côtés d'abord, Jean-Charles Masséra, qui est critique d'art et écrivain, l'auteur de romans aux éditions POL. Amour, gloire et 440, c'est le dernier, et avant, France, guide de l'utilisateur. Bertrand Lavier, qui est artiste. Alors, je ne sais pas, peintre ou pas peintre, comment vous vous présenteriez, Bertrand Lavier?
Ben, peintre ou pas peintre, voilà.
Ça vous va très bien. Bon. Catherine Framblin a publié chez Flammarion l'année dernière une monographie qui vous est consacrée. À vos côtés, Cyril Jarton, qui est critique d'art. Vous avez écrit dans beaucoup d'ouvrages spécialisés, Omnibus, Art Press, etc.
Voilà, et puis en même temps, je conseille parfois certains artistes pour leurs expositions. Et puis je fais des catalogues.
À vos côtés, Dominique Gauthier, qui est peintre, là je crois que vous acceptez, hein, tout à fait. Vous avez exposé dernièrement à la galerie Les Filles du Calvaire dans le cadre d'une exposition qui s'intitulait « Super-Abstraction ». Donc Super-Abstraction. Le commissaire de cette exposition, Andrea Busto, parle de votre peinture en termes de choc visuel. On parle aussi d'abstraction baroque pour désigner votre travail. Et puis enfin, Éric Troncy, co-directeur du consortium de Dijon, où se tient en ce moment une exposition. Alors vous allez me le dire avec un bel accent anglais, Éric Troncy.
Bel accent, je ne sais pas, mais l'exposition s'appelle « There is no spirit in painting », qui veut dire, en gros, il n'y a pas d'esprit dans la peinture.
Et l'idée de cette exposition ?
L'idée du titre, surtout, c'est pas complètement gratuit. C'est un clin d'œil discret à une exposition qui a eu lieu en 1981 à la Royal Academy of Arts de Londres, qui s'appelait A New Spirit in Painting, donc un nouvel esprit dans la peinture, et qui est une des dernières grandes expositions, donc il y a 20 ans, où on essayait de dire que c'était justement dans la peinture que ça se passait.
Alors justement, Éric Troncy, vous êtes un des co-directeurs du consortium, une institution qui montre de l'art contemporain et qui a la réputation, peut-être à tort, je ne sais pas, de pas trop s'intéresser à la peinture. Alors est-ce que cette exposition de peinture qui a lieu au consortium en ce moment prend une valeur particulière, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que c'est une manière de montrer que la peinture, tout comme les autres médias, a sa place aujourd'hui dans l'art contemporain et que finalement ces questions de genre sont assez secondaires?
Bah, la différence entre cette exposition et les autres, c'est qu'on s'est vraiment posé la question de savoir si on montrait autre chose que de la peinture, si ce qu'on montrait était autre chose de la peinture. Mais finalement, il y a toujours au moins une peinture dans les expositions du consortium. Quand on fait une exposition avec Sarah Morris, on fait une exposition de peinture, elle ne montre que des peintures, et pourtant on ne dit pas que c'est une exposition de peinture. Là, la différence, c'est que on a réuni des artistes dont... une des caractéristiques communes était effectivement de faire de la peinture, c'est-à-dire finalement ce que font la plupart des artistes aujourd'hui, mais d'en faire de façon, on va dire, classique, c'est-à-dire sur des toiles, ces toiles étant montées sur châssis, et puis c'est tout. Puisque quand je dis que finalement la plupart des artistes font de la peinture aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils en font, mais ils en font sur les murs, sur le plafond, sur des objets, sur des volumes, etc., etc. Donc on a moins tendance à considérer ça comme de la peinture, mais à mon avis, quelqu'un comme Jessica Stockholder, qui est une artiste qui déploie dans l'espace des champs colorés et des volumes colorés, qui est une artiste américaine, qu'on considère alors peut-être comme quelqu'un qui ferait des installations ou de la sculpture, tout à fait, est plutôt, à mon avis, quelqu'un qui prolonge une réflexion sur la peinture et finalement de façon assez logique. Donc, pour revenir à l'exposition du consortium de Dijon, là, ce qui choque peut-être, c'est qu'effectivement, on a simplement choisi des artistes qui travaillaient sur des toiles montées sur châssis en deux dimensions.
Ce qui avait tendance à devenir rare, Bertrand Lavier.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la définition de la peinture de chevalet. Voilà, c'est ça, on y est. On n'a pas beaucoup progressé depuis 100 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'explique Eric Troncy, pour un certain nombre d'observateurs, la peinture n'existe quand elle serait de chevalet. C'est-à-dire que la toile, les clous, le châssis, etc. Donc, vous voyez qu'on a encore du grain à moudre, hein, pour parler de la peinture, si elle est sèche ou pas. Et donc, je crois que dans cette définition comme ça, vraiment extrêmement restrictive, on est dans un débat qui, alors je dirais, est franco-français. Parce que la question que vous posiez en chapeau de l'émission, cette émission ne la ferait pratiquement nulle part ailleurs qu'ici. Et ce que je pense que vous avez entretenu sur cette espèce d'idéologie Camif-Télérama, est quand même une courroie de transmission qui met en avant toute cette espèce d'idée, mais qu'on pourrait appeler très simplement réactionnaire, dans le plus strict sens du terme, qui fait qu'évidemment, là, il y a un fonds de commerce gigantesque, naturellement, dans lequel s'engouffrent un certain nombre de gens pour freiner les cas de fer, leurs chariots.
Dominique Gauthier, alors cette émission, on ne la ferait pas dans un autre pays, mais c'est pas seulement peut-être du fait des discours des commentateurs, mais aussi du fait de l'absence peut-être de peintres. Vous vous sentez en minorité dans le paysage des arts plastiques français ?
Non, la question ne se pose pas comme ça. Je pense qu'un grand pan de la peinture s'est défini dans une perspective critique et s'est épuisé un peu dans une perspective critique. Je parle là très spécifiquement de la peinture, sans pour faire un acte de corporation, je ne revendique rien. Mais on pourrait peut-être maintenant visualiser, en tout cas, des expériences de création finalement en peinture, et non des expériences critiques. J'entends par rapport à la posture du peintre. Le peintre avait un répertoire et récitait une histoire, et on se trouve devant un moment qui est beaucoup plus... Qui a épuisé toutes les dimensions du stockage, finalement, du répertoire stylistique, gestuel, etc. Et donc, on réexamine la possibilité de la peinture dans une dimension de création, c'est-à-dire d'inattendu et d'apparition. Alors, à partir d'une question comme celle-là, il y avait des peintres qui étaient plus ou moins montrés, il y avait une perspective qui était assez polissée de la peinture, et il y avait une usure, certainement. Mais si on considère que d'autres aventures se sont mises en place et ont eu le temps de s'expérimenter, je parle pour moi, mais pour d'autres personnes que je suis à même de rencontrer, une perspective souterraine comme ça, de la peinture comme possibilité, comme potentiel, s'est largement exprimée. Elle a été très peu vue, très peu montrée dans ce contexte français. Alors que la question se pose maintenant, tant mieux, tant pis, enfin c'est pas terriblement important, dans la mesure où, par exemple, moi, je situerais ces nouvelles perspectives dans des perspectives vraiment de création, en évitant de revenir à l'héroïsme évoqué dans les expositions des années 80. Ce n'est pas du tout dans cette perspective-là. Mais en tout cas, dans quelque chose qui serait véritablement une aventure et de l'inattendu. Et donc là, peut-être que l'espace français est plus à même d'apercevoir quelque chose qui, jusqu'à présent, ne les concernait pas directement. Mais en tout cas, ce n'est pas la peinture contre autre chose. Hein. Ce n'est pas du tout cette perspective-là, ni qui m'anime, ni que je crois être importante. Il y avait eu un article très important d'un critique américain qui s'appelle Arthur Danto dans les années 85 qui disait « la peinture après la fin de l'art ». Et l'espace de la peinture était largement un espace du possible. Il n'y avait pas du tout de contraintes et d'impossibilité. C'était vraiment une aventure à observer. Après, les critères de qualité, les critères d'intérêt sont bien sûr... tout à fait légitime, mais l'aventure n'était pas épuisée. Dans l'espace français, souvent, l'aventure était considérée comme un peu périphérique à d'autres choses qui étaient prioritaire. Mais les peintres ont continué à agir, hein, et pas n'importe quel peintre. Si, tout à l'heure, j'arrêterai là, mais vous avez signalé que la peinture pouvait être examinée par certaines personnes en réaction à un rejet de ce qui serait l'art contemporain. C'est pas du tout dans cette perspective que j'essaye de m'exprimer là.
C'est des gens épuisés qui disent
Bertrand
ça. Ce ne sont pas les champs de la peinture, comme vous dites, qui sont épuisés. C'est les gens qui le sont.
Oui, l'attention, et puis aussi certainement le bilan que l'on pouvait faire très généralement de l'art du XXe siècle. La peinture participait au bilan et participait aussi à un certain nombre d'impossibilités. Il se trouve que derrière tout ça se manifestait une espèce de recherche, des expériences. Comme tout cela appartenait à un contexte critique qui avait souvent des espèces de dénoncés, répéter, la peinture ne trouvait pas peut-être des moyens d'expérimentation. Ou elle était par exemple difficile pour certains jeunes artistes qui y renonçaient un peu trop facilement. Mais ceci dit, d'autres n'ont pas renoncé. Hein.
Et si justement on considère le contexte de l'art du XXe siècle, est-ce que l'absence de peinture de chevalet, pour reprendre l'expression de Bertrand Lavier, n'est pas consécutive à l'écriture d'une histoire de l'art et à la mise en place d'un discours critique autour de l'art du XXe siècle qui a eu tendance, d'une certaine manière, je caricature, mais à remplacer la figure du grand artiste, qui était Picasso par exemple, ou Matisse, par celle de Marcel Duchamp, qui est devenue la grande référence, la grande figure de l'artiste, Jean-Charles Masserat.
Je ne sais pas, mais moi je vois les choses un petit peu différemment. D'abord, je suis assez surpris d'être ici aujourd'hui parce que je n'ai jamais écrit une seule ligne sur la peinture.
Mais vous êtes critique d'art, c'est pour ça que c'est assez intéressant.
Oui, tout à fait. Mais, j'ai jamais écrit une seule ligne, c'est pas vrai. J'ai commencé, comme tout le monde, à m'intéresser à l'art et par conséquent, directement et uniquement, exclusivement à la peinture. Mais pour revenir à cette question, je préférerais qu'on renverse la question ou tout du moins qu'on la prenne sous un autre angle. Parce que ce qui m'étonne toujours aujourd'hui, c'est lorsqu'on parle de peinture, mais de la même manière, lorsqu'on parle de sculpture, ou on va dire pour aller vite, de médium assez traditionnel. On désigne ces médiums comme tels, c'est-à-dire comme si l'art était encore dans une phase de l'histoire où chaque médium, après avoir défini son aire de compétence, hein, pour parler comme Clément Greenberg, ou ses champs du ou des possibles, arrivait évidemment logiquement à terme, on a tout dit, on a tout épuisé, toutes les possibilités sont épuisées. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste à dire avec nos pinceaux, nous, qu'est-ce qu'il nous reste à dire avec notre appareil photo, etc. Or, il me semble que la plupart des démarches qui me semblent significatives au XXe siècle, depuis la deuxième phase du modernisme qui a émergé quand même pas mal aux États-Unis dans les années 60 et à la fin des années 60, c'est qu'il y a eu un renversement complet du rapport au médium. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est arrivé dans une phase de l'histoire où les artistes ne se souciaient plus de savoir quels étaient les possibles inhérents à la vidéo, au cinéma, à la photo, à la sculpture ou à la peinture, mais tous les possibles de ces médiums ayant été expérimentés, on employait le terme expérimental à cette époque-là, on s'est dit, si pour telle ou telle question, tel propos qui m'intéresse ou que je prends en charge en tant qu'artiste, j'ai besoin de tel médium, de tels matériaux, je les utilise. Et c'est comme ça qu'on a vu naître ce qu'on a appelé vulgairement les installations, les performances, etc. Vito Acconci, Martha Rosler se sont jamais définis comme des photographes, des installateurs ou je ne sais pas quoi. Ils se sont définis comme des artistes qui, à un moment donné, avaient besoin de la photo, de la performance, de l'image, etc. Bon. Et bizarrement, on a eu, parallèlement à ça, le maintien accroché, mais on a quasiment la même tentative désespérée en littérature avec la poésie ou le roman, qui se définissent en tant que genre, par exemple. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut encore dire ou comment on se situe, nous, par rapport au champ de l'art contemporain? Il y a eu une exclusion, je veux dire, peut-être par les artistes qui se sont accrochés à des soi-disant possibles de la peinture ou qu'est-ce que la peinture pouvait encore dire. Mais à la limite, si on transfère ce discours dans le champ des arts plus officiels, on pourrait dire, pour parler comme les détracteurs de l'art contemporain, dans le champ de la photographie ou de l'installation, c'est pareil, les gens qui se définissent comme photographes ou quels sont les possibles de la photographie ou de l'installation, c'est aussi catastrophique en termes d'énonciation. Je veux dire, l'idée, c'est de renverser la question, c'est de ne plus mettre le médium sur le devant de la scène. Et pour finir avec cette question, ce que je reproche souvent aux détracteurs ou aux défenseurs de l'art contemporain contre la peinture ou de la peinture contre l'art contemporain, ce qui fait qu'il y a ce clivage. Donc on a l'impression effectivement qu'il y a une histoire de l'art contemporain qui continue, puis une histoire autonome de la peinture qui perdure. C'est tout simplement que on met en avant la question du médium. C'est-à-dire, par rapport, vous avez dit vous-même tout à l'heure, est-ce que la peinture n'est pas un petit peu marginalisée par rapport aux autres médiums avec l'émergence des autres médiums ? C'est pas ça le problème. Les personnes qui revivent l'aventure du modernisme sur Internet ou qui explorent les possibles du CD-ROM sont aussi ridicules. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a des. Olivier Cadieux qui dit c'est pas parce qu'il y a des bagnoles dans un roman que c'est moderne.
Il suffit de voir tout ce que font les étudiants avec de la vidéo. Vous faites par exemple une visite dans une école des beaux-arts, vous êtes affligé par le. Alors seulement évidemment ça fait même pas mal, ça fait contemporain. Surtout ça fait les vidéos, vous partez en courant. Parce qu'en plus vous êtes obligé de regarder ça longtemps. Le tableau dont on parle depuis le début, ça au moins ça un coup d'œil suffit pour se faire une idée.
Cyril Jarton.
Mais en fait, ce qui m'intéresse dans cette question du rapport de la contemporanéité et de la peinture, en fait, c'est qu'en fait la contemporanité n'est jamais définie en réalité. Donc en fait, la peinture apparaît comme en contradiction avec le contemporain, qui lui-même est pas défini. Et ce qui est drôle en fait dans la logique du discours de construction de l'art contemporain, c'est qu'à ce moment-là, la peinture qui effectivement est inventée un petit peu comme un médium, sert à la fois de repoussoir à une théorie de l'art contemporain qui n'existe pas. Donc ça m'a paru un peu à un moment, la peinture comme le refoulement fondamental un petit peu, qui permettait à la contemporanéité de se définir de manière un petit peu restrictive, comme un temps réel. Et en fait, la définition un petit peu minimale du contemporain, ça veut dire qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui se passe en même temps que l'exposition, ce qui fait que beaucoup de théories de l'art contemporain un petit peu légère, je trouve, en fait, disent la contemporanéité, c'est la relation immédiate, c'est l'interaction dans l'espace d'exposition. Et à ce moment-là, la question de la peinture, en fait, réapparaît, parce que la peinture, elle n'est jamais en temps réel, en fait. Elle est toujours un petit peu en avant ou un petit peu après, donc elle n'a pas de statut dans cette définition un petit peu vague du temps réel, en fait. Donc je pense que c'est plutôt à ce niveau-là que se pose la question. La peinture, c'est toujours soit un horizon, comme une peinture de Rothko, ou comme une peinture qui est sur le mur, en fait, quelque chose qui est à l'horizon, qui est demain, etc. Soit quelque chose qui est déjà passé, en fait. Le peintre peut peindre le meilleur moment de la veille ou une dimension subjective et qui n'a pas d'éléments concrets, donc dans la théorie de l'art contemporain, qui n'a pas de représentation. Donc, en fait, je pense que ça s'est constitué un petit peu comme ça, cette question de la peinture, en fait.
Dominique Gauthier, vous retrouvez dans cette description de la peinture.
Oui, ou... oui, mais ce que je voudrais te dire, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que c'est absolument pas une question de médium. C'est vraiment une question d'image. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec une image ? Et spécifiquement, on a une pratique de la peinture. Mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas revenir à la question du métier ou du savoir ou des éléments qui sont historiques dans l'effectuation d'une peinture. Il faut voir de quelle manière on peut produire une image. Et il y a des dimensions, justement, dans des expériences picturales qui sont de véritables nouvelles dimensions d'expérience visuelle. Et l'important, quand je dis qu'on peut essayer de penser autrement la peinture, c'est-à-dire sortir d'un champ critique pour être dans un champ expérimental, c'est parce que la peinture arrive avec un dispositif d'image. C'est pas un dispositif de médium. En tout cas, là, je le défendrai véritablement. Il faut pas non plus se tromper. Et à ce moment-là, effectivement, le discours qu'on va avoir va être un discours sur comparativement les moyens, les possibilités. Mais c'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'on peut faire voir d'une certaine manière. Qu'est-ce qui se trouve dans une expérience qui rejoint un regard et qui rejoint un devenir finalement. Il y a une expérience effectivement qui est différée en peinture. Il y a souvent du retard, mais peut-être pour être dans une espèce d'anticipation du futur. Et le médium, ce n'est vraiment qu'un moyen d'effectuation de ce futur.
Alors, ce qui compte, c'est de produire une image dans un contexte où il y en a de plus en plus produites par des gens qui ne sont pas des artistes ou qui ne se veulent pas des artistes, d'ailleurs. Bertrand Lavier, une des images récentes que vous avez produites, je ne sais pas si c'est, on pourrait la qualifier de peinture sans chevalet, d'une certaine manière, je pense à la carte de vœux que vous avez réalisée pour le musée d'art moderne de la ville de Paris. En fait, c'est une image qui représente la signature Picasso de la voiture Citroën. Donc c'est une image c'est une voiture de couleur rouge, on voit la signature Picasso et vous avez titré cette image Picasso détail. Ça c'est de la peinture d'une certaine manière ?
Bien sûr, c'est de la peinture industrielle. La peinture industrielle, mais c'est quand même du Picasso. Et cette carte de vœux, elle est effectivement c'est plus ou moins grandeur nature. D'ailleurs, le détail de cette Picasso, qui est une voiture naturellement très ordinaire. Il fallait une voiture ordinaire pour faire ce coup publicitaire-là. Et donc la carte de vœux qui est destinée à souhaiter les vœux de la directrice du musée d'art moderne de la ville de Paris fait qu'on fait, disons de manière un peu comme dans le billard à trois bandes, on réintègre Picasso dans le musée aux dépens, j'allais dire, de tous les grincheux dont on parle de manière implicite d'ailleurs depuis le début de cette émission, qui trouvent scandaleux que la famille de Picasso vendent le nom de, du père, hein, sans faire de la psychanalyse à 2 francs 60, pour vendre des voitures. Et alors, on peut quand même s'en amuser et puis avoir un esprit un peu plus libertin, léger, etc., ce qui nous manque bien, qui nous fait bien défaut. Et donc, on peut très bien voir aussi que la Picasso, moi j'ai une théorie comme ça extrêmement simple, c'est que cette Picasso sera peut-être même plus rare qu'un tableau de Picasso dans 50 ans, parce que c'est comme la bouteille de Coca-Cola de 1932, aujourd'hui elle est introuvable, et donc la Picasso, qui est un genre très ordinaire qu'on va produire, j'espère pour Citroën, à des millions d'exemplaires, va disparaître dans les 20 ans qui viennent. Donc, c'est déjà une pièce de musée.
Éric Troncy, c'est vraiment ça l'enjeu, produire des images qui, éventuellement, sont capables de prendre en compte ce contexte et de clouer le bec à ces grincheux qui continuerait d'avoir une représentation de la peinture comme quelque chose de susceptible de transcender vraiment les images qui nous entourent.
C'est toujours un petit peu compliqué de dénoncer des généralités, mais moi j'ai l'impression que si les artistes refont la peinture aujourd'hui, on va être assez clair, c'est justement parce qu'ils s'occupent plus des grincheux, d'une part. Et puis, effectivement, le problème aujourd'hui est plus de réfléchir par rapport à une histoire de la peinture, quelque chose qui serait très cloisonné et très spécifique comme ça. Et on a parlé tout à l'heure du monde des images, et je crois que c'est effectivement à l'intérieur du monde des images que se développe une espèce de, on va dire de façon très caricaturale, de second souffle de la peinture. Ce qui intéresse les artistes, à mon avis, c'est de produire des images. Et il est d'ailleurs absolument pas innocent à ce titre que les gens qui font de la peinture aujourd'hui, enfin ceux qui m'intéressent en tout cas, sont des gens qui font de la peinture figurative. Dans l'exposition au Consortium, on a 90% de peinture figurative. Et c'est des gens qui font de la peinture, pas comme on aurait fait de la peinture il y a 20 ans.
Par exemple, ce sont quelques noms, c'est pas forcément des gens qu'on a beaucoup vus, mais...
Non, mais c'est peut-être pas des gens qu'on va beaucoup voir non plus, parce que de façon assez bizarre, je pense que c'est une peinture qui n'est pas médiocre comme ça, mais qui n'est pas non plus complètement géniale, c'est-à-dire qu'elle se préoccupe pas du tout justement d'être géniale ou médiocre, elle est faite de façon honnête, mais sans excès, et pour moi, c'est de la peinture qui s'inscrit dans le... Si ça existait dans la continuité d'une histoire des décors de sitcom, par exemple. Vous voyez, ces images, finalement, qui campent une situation assez rapidement, qui sont aussi les images de la mode, qui est aujourd'hui, à mon avis, le principal facteur de perturbation, si possible, des arts plastiques. Et vous savez que le monde de la mode, comme ça, a envoyé un certain nombre de parasites dans le milieu de l'art. Parasite au simple sens de parasitage, pas comme un pou, au sens de parasitage, et notamment a complètement perverti l'histoire des images avec une inventivité dans le domaine de la photo de mode, par exemple, que les artistes avaient tranquillement oublié depuis assez longtemps. Donc tout ça a un peu réorganisé les choses, et je pense que si les artistes aujourd'hui, certains artistes aujourd'hui essaient de refaire de la peinture figurative, c'est en luttant avec d'autres armes que celles justement utilisées dans la mode pour faire des images.
Et en acceptant, si je vous entends bien, le caractère au mieux artisanal, au pire très industriel de leur production.
Je crois que c'est plus la question. C'est plus la question. L'idée n'est pas bien évidemment de montrer qu'on sait peindre, ni même d'avoir un discours sur la technique ou une réflexion sur le médium, qui, comme le disait Jean-Charles Masséra, est vraiment complètement atomisé en tant que question, mais d'essayer de produire des images dans un monde où aujourd'hui il y a des images très efficaces, des images un peu ridicules et qui circulent très vite, qui sont celles d'Internet, qui est quand même une grosse connerie qui nous fait tous beaucoup rigoler, enfin tout du moins dans le milieu de l'art, et puis essayer de trouver au milieu de cette production d'images complètement métastatiques une position qui permette de produire à nouveau des images en redéfinissant les règles du jeu.
Je pense que ça d'ailleurs c'est très clair, parce que si on est un petit peu attentif à la scène justement qui s'offre à nous, on voit le caractère pathétique du métier quand il est porté au nu. C'est-à-dire quand un peintre vous dit qu'il broie ses couleurs lui-même, etc. Alors là, on sent tout de suite le désarroi, que la bataille est perdue et que tout ça s'en va en bribes et se délite. Et donc, quand on est de l'autre côté, sur l'autre versant de la création, peinture compris, naturellement, ça, c'est clair, on a quand même un peu plus c'est un peu plus tonique. Et je pense que quand on observe ça, c'est pas du tout une réflexion personnelle. Je pense qu'on fait tous, plus ou moins, ce constat devant ces cris.
Oui, mais ça c'est un discours qu'on a dans tous les arts. Enfin, je veux dire, on peut aussi entendre des cinéastes nous expliquer comment ils ont fait un plan fixe ou un plan caméra sur l'épaule pendant 11 minutes. Enfin, ça relève de l'exploit quasi physique et ça donne une valeur à leur travail de réalisateur.
Oui, oui, mais ça, je crois que c'est un peu différent parce que là, il y a de la nostalgie. C'est-à-dire que quand le cinéaste vous dit comment il a fait son plan de 11 minutes, il n'essaie pas de vous dire implicitement qu'avant, c'était mieux.
Non, le plan de 11 minutes n'est prestigieux que si on ne le voit pas. Hein, ouais. C'est la même chose à mon avis.
Oui, mais il y a beaucoup de cinéastes en vendant leurs films après.
Il y a aussi de mauvais cinéastes, j'imagine, ouais. Sylvain Bourmeau. Ouais.
Dominique Gauthier, donc cette peinture que vous faites et qu'on peut faire aujourd'hui, telle que, je ne sais pas si vous reconnaissez dans le cadre qu'elle vient de définir Éric Troncy, mais elle est, semble-t-il, très très différente de ce qui reste pour beaucoup de gens associés à la peinture aujourd'hui en France, à savoir ce qui s'est fait beaucoup dans les années 80, qui continue de se faire, qui sont des gens comme Garouste, comme Combas, comme Boiron, comme Di Rosa. Pour la plupart, j'imagine, du public, ce sont ces noms-là auxquels on pense quand on dit peinture en France.
Oui, de toute manière, enfin... Moi, je peux avoir des jugements. D'ailleurs, j'ai des jugements assez sévères, y compris sur ce que je fais, mais je suis très attentif, donc je regarde absolument tout. Et par rapport à ce grand schéma-là, qui est aussi un vieux schéma, en tout cas du rapport entre abstraction et figuration, quelque chose qui serait de la figuration, tout ça, moi, je ne me situe pas du tout dans cette perspective-là. Je n'ai pas vu l'exposition, là, mais à entendre, j'entendais quelque chose qui, à mon goût, était encore dans une posture, comme ça, une position, voire peut-être un rapport encore critique au goût et aux valeurs des images. Alors, se mettre dans une posture de peintre qui regarde avec mélancolie des images qui viendraient des images populaires de la télévision, etc., et qui en ferait une peinture, j'ai a priori rien contre. Mais je m'étonne d'une importance comme ça relevée à ce niveau-là. J'ai pas vu les peintures, je peux pas trop considérer, mais je trouve que ça appartient beaucoup à un espace un peu nihiliste de l'observateur qui regarde en se décalant. Alors, le XXe siècle, c'est un siècle d'indexation. On montre un peu toujours en se décalant. Alors moi-même, je m'autorise des décalages. Je fais effectivement de la peinture avec des procédures techniques qui sont forcément décalées, qui ne sont pas historiques, qui ne sont pas de l'ordre du métier. Mais le décalage par rapport à une image qui aurait comme ça déjà son propre véhicule, sa propre identité socioculturelle, je me garde de le critiquer définitivement, mais je ne suis pas très très convaincu.
Cyril Jarton, je voudrais revenir sur la spécificité peut-être du contexte français, parce que si on prend une exposition comme Sensation qui a eu à Londres et qu'on peut tenir comme une bonne coupe de la scène britannique à un moment donné, il y a quelques années de ça, on s'aperçoit que dans cette exposition, il y a quand même beaucoup de peinture, un peu de tout, des installations, de la sculpture, mais beaucoup de peinture. On s'aperçoit aussi que du côté de l'Allemagne, par exemple, il y a beaucoup de grands peintres qui sont régulièrement montrés dans les expositions internationales. On a l'impression que si on voulait faire l'équivalent de Sensation en France, on aurait nettement moins de peintres.
Si, moi je pense que c'est un petit peu la même chose, parce que soit on part d'un axe thématique et on fait une exposition un petit peu narrative ou provocatrice, mais pour en revenir à l'histoire des médias, que moi je trouve pas réglée comme ça finalement, quand on regarde le système visuel actuel, en fait on a quand même une compétition de médiums, c'est-à-dire qu'en fait, moi je vois la situation contemporaine comme une compétition entre différents standards visuels, qui cherchent à prendre chacun le...
Et c'est la position historiquement hégémonique de la peinture qui serait mise à mal depuis déjà assez longtemps et
qui... Non, je ne pense pas qu'elle n'a pas un pouvoir plus que d'autres médiums, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est comment se structure en fait, le système visuel actuel, indépendamment art par art, en fait. Mais bon, quand on prend le cinéma, qui a par exemple une importance assez forte dans l'art contemporain, là, il y a l'exposition de Douglas Gordon, par exemple, qui est un artiste anglais qui est au musée au Palais de Tokyo. Et donc là, par exemple, on voit un cas assez intéressant où le cinéma devient, par exemple, à juste titre d'ailleurs, un médium qui est cité comme référence et qui permet de penser toutes sortes d'installations artistiques, par exemple. Et de même, on peut prendre d'autres situations où la photo est dans le quotidien, par exemple, un rapport habituel aux choses. Donc on prend son regard comme un appareil photo, ou alors quand on prend son regard comme un peintre, on a encore une autre façon de voir, ou comme un publicitaire, une autre façon de voir. Et en fait, notre expérience visuelle se passe toujours dans le choix d'un standard à un moment donné, où on va choisir à ce moment-là de voir en peintre, de voir en photographe, de voir avec un modèle informatique. Et donc, Ce qui est intéressant, c'est de resituer la peinture à l'intérieur de ce système, en fait, des médiums et des médias. Et alors, la peinture, par rapport à, dans le système des médias, en fait, le média le plus puissant en termes de frappe, finalement, et d'efficacité visuelle, c'est celui qui diffuse le plus, c'est-à-dire, effectivement, la radio, la télévision, l'Internet, etc., donc qui ont un potentiel visuel maximum. Et à l'intérieur de ce système, en fait, la peinture, c'est le système le plus bas de gamme, en fait. C'est un petit peu le David contre Goliath, enfin, sauf qu'il n'y a pas de guerre. Mais simplement, la stratégie de la peinture, en fait, c'est peut-être au contraire de jouer le côté de la non-diffusion, en fait. C'est-à-dire qu'elle passe sans attaquer la diffusion, d'ailleurs. Mais par rapport à... En fait, le médium efficace par excellence, c'est celui qui prend un message relativement simple et le diffuse à un maximum d'exemplaires. Et la peinture se joue sur un autre terrain, en fait. Elle prend une multitude de messages et les fait converger en un seul point, en fait. Donc, il y a un rapport de concentration et de cohérence et de faire affluer des messages en un seul point par rapport à une dynamique qui est un petit peu contraire, de prendre un message et de le multiplier. Donc moi, je pense que ça se passe comme ça, en fait. Et à chaque moment de notre expérience artistique ou visuelle, on décide de choisir telle chose. Et c'est pas du tout pareil de sortir dans la rue et de regarder le monde en photographie, donc de cadrer, etc., que de regarder le monde en peinture, c'est-à-dire de regarder les éléments picturaux qui scintillent partout, la couleur des vitrines, la couleur de la rue, etc. Donc à chaque fois, on a ce choix-là. Soit d'être un espèce d'internaute aussi dans la rue aussi ou dans la société, et donc de capter toutes sortes d'informations et de faire la synthèse, ou de voir la vie en écrivain, de voir les mots, le langage, etc. Donc moi, j'aime bien le choix, en fait, d'être un peintre ou un écrivain à un moment donné. Enfin, bon, c'est comme ça, en fait.
Non, mais regardez, par exemple...
Bertrand Lavie.
Oui, pardon. Raymond Hens est l'illustration parfaite du collage de l'opposition que vous faites, c'est-à-dire... Il regarde la rue, il la regarde en peintre, il est l'observateur du réel, et quand même, il produit un tableau remarquable.
C'est un exemple que j'adore, Raymond,
oui,
en même temps.
Donc tout ça est un peu caduque, c'est pas aussi simple que ça.
Ah, mais ça dit, le même artiste peut utiliser un système littéraire. Raymond Hens, par exemple, va prendre un système linguistique, il va prendre la langue, et donc il va traverser, il va prendre différents éléments linguistiques, il va partir d'un sous-verre de Bière-Canter, il va passer à Kant, etc. Donc il va se mettre à un moment une lecture où il va tout ordonner par rapport au langage. Et à un autre moment, il va tout ordonner par rapport à un autre système visuel qui était celui des affiches décollées, arrachées des années 50. Et là, il va prendre un autre système visuel et le lire en peintre, en fait. Et à chaque fois, ou alors dernièrement, il a fait une exposition qui était au FRAC Champagne-Ardenne, où il avait décidé de prendre comme métaphore de sa lecture du monde le Macintosh. Et donc, il a fabriqué des grands tableaux Macintosh où il cumulait toutes les informations, etc. Donc, moi, ce que je trouve quand même dans la rigueur artistique d'un artiste, c'est pas qu'il soit peintre ou pas peintre, c'est qu'à un certain moment, il démontre un processus, en fait. Mais comme tu fais quand tu prends un mode de lecture picturale pour analyser des panneaux, etc. En fait, de rassembler toutes sortes de signes en choisissant la peinture comme lien. Mais aussi, ça peut être la sculpture, quand tu choisis
absolument
la sculpture comme
bien
lien
sûr, hein,
entre des objets, en fait. Et ce qui est intéressant dans la rigueur, c'est de suivre une trame et d'établir une lecture en étant soit peintre, soit photographe, etc., ou alors dans la confrontation de ces médiums. Sinon, il ne se passe rien, sinon c'est de l'illustration de concept, en fait, moi, je pense.
Alors, guerre ou pas guerre, concurrence entre ces différentes manières de voir, Jean-Charles Masserin ?
Je ne sais pas, mais si, effectivement, l'enjeu, c'est de s'inscrire dans la lutte entre David et Goliath, à ce moment-là, la poterie ou le macramé sont 10 fois plus efficaces que la peinture, parce qu'ils sont encore moins visibles que les images dominantes qui circulent sur le net, à la télévision, à la radio. Non, moi, je pense pas, enfin, j'ai jamais vu le problème comme ça, mais en revanche, et la discussion qu'on a là en témoigne encore, je suis toujours étonné par cette importance du visuel, enfin ce diktat quasi, du visuel en art, à partir du moment où on sait très bien que si l'art a à voir avec des questions de, enfin, il me semble, moi, c'est ce qui m'intéresse, de représentation, c'est-à-dire comment je me représente aujourd'hui, ici, maintenant, dans le monde qui est le mien, comment j'articule ma subjectivité avec cet objet monde qui m'est donné, le visuel est de loin pas le seul canal de réception et de lecture, de compréhension du monde et d'articulation de sa propre subjectivité avec le monde. Vous avez parlé de la radio, il y a le net, il y a le texte. On sait très bien depuis je ne sais pas combien de siècles qu'on a dépassé le seul visible dans la science pour aller au-delà du visible, en chirurgie, en science, en astrophysique, etc. Et qu'on est même obligé des fois de passer par des savants calculs pour se représenter ce monde, qui n'est même plus de l'abstraction à ce niveau-là. Il faut le calculer pour le saisir. Et je trouve que le visuel, finalement, a une part extrêmement réduite. Aujourd'hui, c'est vraiment la part congrue de cet écart qu'il y a entre le monde et moi, qui serait le langage ou les formes. C'est pour ça que c'est pas un hasard si les artistes aujourd'hui utilisent souvent du son, du texte, le corps, et il peut y avoir éventuellement du visuel, mais je suis toujours atterré par ce diktat du visuel. C'est comme je discutais avec Vito Acconci, qui est toujours en train de pleurer sur ses catalogues. Je dis on comprend rien ces installations. Il me dit bah oui, parce que de la même manière qu'on a du mal à en rendre compte photographiquement, on a également du mal à en rendre compte sur le plan critique, parce qu'il y a une surattention portée au visuel. Mais à partir du moment où on entre dans un travail qui fait appel à de la durée, à l'inscription dans le temps avec du texte par exemple ou avec d'autres signes, bizarrement le champ extrêmement réduit, presque institutionnel, des arts visuels, a du mal à en rendre compte. Et moi, je trouve que si on parle d'image, je préférais parler effectivement d'image, mais d'image mentale, par exemple, ou de représentation. Je pense que la question, moi, ce qui m'intéresse en art, c'est pas la question de la forme, c'est la question de la représentation. Je sais pas, le dernier, vous avez parlé de roman, c'est pas un roman, mais le dernier livre que j'ai publié, c'est un essai qui s'appelle Amour, gloire et CAC 40, qui est un titre de roman, mais dans ce titre, il y a cet écart qui me semble fondamental en termes d'enjeux esthétiques aujourd'hui qu'on pourrait repérer, c'est si le moteur de l'histoire contemporaine, du monde, des sociétés contemporaines, c'est la croissance, ou la sphère séparée de la finance, et quel est ce rapport entre ce temps pseudo-collectif, ou ce temps de l'histoire, et le mien, ma propre biographie, le temps de soi, hein, comment je me représente dans ce monde-là, dans cet espace-temps-là. Bon. Donc il y a une question d'écart, de tension, parce que les représentations qui me sont données correspondent de moins en moins à ce dont je fais l'expérience. Or, l'histoire de l'art, si on veut vraiment faire l'histoire de l'art, je ne suis pas historien, mais on sait très bien que depuis des siècles, il y a toujours une espèce, peut-être pas d'adéquation, parce que des fois, quand il y a trop d'adéquation, il y a aliénation, il y a idéologie, mais l'art est une représentation collective, une articulation de représentation collective avec ce que je vis au quotidien. Genre, la peinture indexée sur la religion, sur le christianisme, c'est exactement ça. Ensuite, les projets utopiques des avant-gardes historiques, c'est aussi ça. Comment articuler la projection de soi ou la projection d'un projet commun dans le temps de l'histoire. Or, il ne s'agit pas aujourd'hui de dire où sont les idéologies et les arts, la représentation collective, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on est face à une crise de représentation sur le plan social, politique, anthropologique, économique et donc artistique. Et là, il y a de l'enjeu, là, il y a des questions qui me semblent beaucoup plus importantes, de savoir est-ce qu'on sort du médium, est-ce qu'on y revient, qu'est-ce qu'on représente. Mais
Jean-Charles, l'économie, c'est un médium, en fait. Quand on se met dans l'économie, c'est un médium, la télévision, c'est un médium, la mode, c'est un médium. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est...
Ce sont des outils qui servent des idéologies. Ce ne sont que des vulgaires outils.
L'infrastructure que tu utilises quand même formate ce que tu dis en même temps, quoi. Si tu parles en partant de l'économie, tu restes forcément dans le... Ce qui est intéressant pour repartir sur la peinture, c'est que par exemple, quand on met comme Rauschenberg, par exemple, on s'aperçoit que la puissance du médium pictural, c'est une puissance de dédéfinition, en fait. C'est-à-dire que quand Rauschenberg met une peinture sur n'importe quoi, en fait, sur n'importe quel objet standardisé, en fait, cet objet n'est plus cet objet économique, produit, etc. En fait, il perd carrément sa capacité de faire signe dans un système social, en fait. C'est une stratégie aussi qui est au même titre que de se satelliser autour de l'économie ou de la mode ou d'autres choses, en fait.
Oui, mais une bonne partie du vent dans l'air aussi, c'est une stratégie qui permet d'échapper à l'instrumentalisation économique.
Effectivement, Guillotin oppose la pornographie à la guerre d'Algérie ou des choses comme ça. Mmh. Ça, c'est vrai que c'est la pornographie, c'est une arme puissante aussi. Mais...
J'ai envie de vous entendre réagir sur ce que Masséra disait à propos de la place du visuel. Enfin, définition globalisante de l'art qui réduit à la portion congrue l'aspect visuel. Je ne sais pas ce qu'un peintre comme vous en pense.
Je suis en partie d'accord, mais aussi très très en désaccord. Je crois qu'il faudrait quand même signifier quel est le rapport ou l'assujettissement à la réalité. Et là, souvent, quand on dit, bon, il ne faut pas effectivement miser tout sur le visuel, tout ça, c'est un rapport à du déjà-vu. C'est une espèce de reconnaissance par fréquentation et justification, assujettissement à la réalité. Or, ce qu'on peut essayer de faire, c'est justement, sans paraphraser quoi que ce soit, mais anticiper sur le réel. Donc, avoir une autre économie, justement, du visuel. Ce n'est pas le rendez-vous des visuels comme acquis, c'est plutôt quelque chose qui anticipe sur ce que pourrait être une vision. Alors, bien entendu, si on mélange les deux choses, on n'est pas du tout dans une perspective, enfin en tout cas celle que j'essayais de dessiner tout à l'heure, par rapport à des enjeux picturaux. Il faut essayer d'anticiper sur ce qu'est la réalité, si on est véritablement dans une expérience picturale. Si on vient réciter, effectivement, on se trouve en rapport avec toutes les images du monde. Et à ce moment-là, on on traite d'économie et de relations plus ou moins critiques, plus ou moins politiques, plus ou moins sociologiques à ce qu'est le phénomène de la représentation. Mais si on se déplace et on regarde le réel, justement par anticipation, par expérience, véritablement de ce qui fait autorité dans l'histoire de la peinture, si on essaye de définir une plateforme d'action à partir de là, on n'est quand même pas dans le même bilan sur le visuel, on ne parle pas de la même chose. Alors, dans ce que vous exprimiez, il y avait les deux choses à la fois. Et je ne crois pas qu'on puisse les situer de la même manière. En tout cas, moi, je ne peux pas les entendre de la même manière. Sinon, la réalité revient au galop et tout le tissu des images va revenir au galop. Et ce n'est pas de ces images-là que je parlais tout à l'heure, moi.
Bertrand Lavier.
Oui. Il faut conclure.
Par exemple.
Il est 13h27, Bertrand Lavier, il faut y aller.
Non, mais c'est très simple. Il faut des outils et un projet, c'est ça, j'ai retenu. En gros. Donc, si vous avez un très beau projet, les outils suivent et puis vous faites monter tout le monde d'un cran.
Donc, le médium, c'est l'artiste, en gros, c'est ce que...
Moi, je crois beaucoup à ça, bien sûr. Oui, nous sommes des passeurs.
Oui, mais écoute, excuse-moi, mais les artistes sont tellement déjà beaucoup d'artistes ensemble. L'espèce d'égo démesuré de l'artiste, là, qui a un héritage quand même très, très culturel. Bon, je pense qu'on est d'accord, mais je préfère préciser, moi je ne le vois pas comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, l'artiste est l'agent, la garantie absolue de son intention. Mais comme déjà un artiste, c'est de multiples artistes en même temps, c'est des polyvalences d'intention, de contenu et de désir. L'artiste, il est quand même... C'est toujours quand le mot est sorti, comme ça, il y a une espèce de prétention. Et alors là, c'est l'héritage culturel, le statut.
Il ne faut pas avoir de complexe par rapport à ça.
Moi, j'en ai pas du tout, mais j'aime bien le pluriel. Alors, ouais. L'artiste, bon, OK, il est dans l'affaire, mais il est tellement avec tellement d'autres choses à la fois.
Tant mieux.
Hein, voilà. C'est pour ça que je préférais préciser.
Ouais. Alors, juste... La musique de fin, la suite dans les idées, est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est une œuvre d'art? C'est en tous les cas un bout d'une œuvre de Pipi le Tiriste qui est éditée en tant que telle sur un CD. Tout ça pour peut-être illustrer ce que dit Jean-Charles Masséra.
Qui n'est pas mieux d'ailleurs, cette musique. Je ne sais pas ce que c'est, mais je suppose que c'est... le truc de Chris Rea, non?
C'est pas la reprise de Chris Isaac.
Peu importe. Enfin, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, ce truc de pilotier, ça ne semble pas mieux aujourd'hui qu'il y a 5-6 ans quand il a été fait. On l'écoute aujourd'hui parce qu'elle a eu son exposition au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, grâce à Suzanne Paget, et qu'on peut avoir accès à ce truc-là. Mais c'est sans doute pas mieux qu'au moment où Pipilotiriste a fait ça toute seule en Suisse, entre deux fondus, sur la route de Ripon et de Chantepoulet. Et que finalement, si on regarde la peinture aujourd'hui, c'est peut-être parce que quelque chose... Parce que ce milieu de l'art est quand même d'une frivolité extrême et qu'il nous invite aujourd'hui à regarder de la peinture.
Éric Troncy, merci. Merci à Bertrand Lavier, Jean-Charles Masséra, Dominique Gauthier et Cyril Jarton.
Demain, la suite dans les idées, une suite dans les idées un peu particulière, puisque c'est une émission enregistrée la semaine dernière chez Germaine Tillon. Germaine Tillon, cette grande ethnographe ou ethnologue française qui nous a donc reçus chez elle en compagnie de Hélène Sixou et Jacques Derrida. La suite dans les idées, Sylvain Bourmont,
Julie Clarini,
avec la collaboration d'Ariane Poulanzas, Caroline Brouet et Nicolas Demorand,
la participation d'Emmanuel Fournier, Geneviève Méric et Brigitte Masson,
à la technique Bruno Gagnère-Fontani, réalisation Pierre Villers.
Et on retrouve François Stressard et Bertrand Jérôme.
Bonjour, 13h30, les Décraqués.
Cette semaine, la traque aux inédits.
Il arrive au décraqué de se faire traqueur d'inédits. Vous savez, c'est ces textes littéraires jamais publiés, oubliés au fond de carton dans une remise. On en a découvert d'ailleurs il n'y a pas si longtemps.
Mais pour mettre la main dessus, il faut partir en chasse et cette chasse n'est pas facile.
Absolument, Serge Joncourt. On sait, pour vous avoir déjà vu à l'œuvre, que vous êtes toujours à l'affût.
Oui, effectivement. Alors à force de demander des inédits comme ça à tout le monde, il n'y en a plus. Hein. Non, mais c'est vrai,
Raison. Ah ben, ça se fait rare, bien sûr.
Ça se fait rare.
Mais il y en a d'autres, vous savez, encore, sûrement. Il faut chercher, c'est tout.
Il faut chercher, ou alors il faut tomber dessus.
Oui.
C'est le hasard. Bon, les miens, bon, ils sont minces. Hein. Ils sont venus en fouillant dans l'ancien bureau d'un président de la République, l'ancien, qui est actuellement en promotion au stand 24 du marché Malik, le bureau. Hein. De là, en plus d'une collection de vieux numéros d'Historia, qui est resté dans le fond d'un tiroir, restaient quelques projets de discours, dont bon nombre étaient rédigés par des grandes signatures.